Deutsche Welle. Droits et libertés.
Cette semaine, nous revenons sur deux aspects de la vie de réfugiés dans un pays étranger. Tout d'abord avec un aperçu des conditions de vie déplorables de réfugiés érythréens et darfouris dans un camp d'internement en Israël. Et puis on reviendra ensuite sur une dispute qui s'est engagée en Allemagne entre les églises et l'État au sujet du droit d'asile. Au micro, c'est Sandrine Blanchard. Bonjour à tous. Dans le camp d'internement de Holot, dans le désert israélien du Negev, ils sont près de 2300 réfugiés africains à lutter contre le froid. Les baraques dans lesquelles ces réfugiés sont logés ne sont pas chauffées, alors que parfois la température peut chuter en dessous de zéro. Une ONG israélienne de défense des droits de l'homme a lancé une campagne sur le net pour faire entendre la voix de ces réfugiés qui souffrent, que vous pourrez retrouver en ligne sous le hashtag Holot Voices. Mais malgré ce maigre soutien, les Érythréens et darfouris qui s'entassent à Holot ont peu de chances de voir leur demande d'asile aboutir. Cet hiver, il a beaucoup plu en Israël et à l'humidité s'ajoute le froid mordant et le grésil dans le désert du Negev. Et dans le camp de Holot, situé à la frontière égyptienne, eh bien, les réfugiés venus d'Érythrée et du Soudan souffrent aussi des conditions climatiques, comme en témoigne l'un d'entre eux, Jack Admisser.
C'est devenu très dur. Les baraques ont des murs en tôle. Il y fait très froid. Nous n'avons pas de chauffage et tout est assez chaotique. Cela me préoccupe beaucoup. Certains d'entre nous n'ont même plus la force d'aller manger au réfectoire.
Jack a fui l'Afrique pour Israël par voie terrestre, c'était il y a 6 ans. Depuis, il a appris l'hébreu. Mais l'année dernière, les autorités israéliennes ont exigé de lui qu'il s'inscrive au camp de Holot, à une 40aine de kilomètres de l'agglomération la plus proche. Rotem Ilan, de l'ONG israélienne ACRI, estime que les conditions de vie des réfugiés dans le camp constituent une atteinte à la dignité humaine.
Ils n'ont rien pour se chauffer. Quand un réfugié parvient à se procurer un chauffage d'appoint, on le lui confisque. C'est pour ça que nous nous sommes plaints. L'administration a dit qu'elle allait s'en occuper, mais ça prend du temps. Nous avons demandé à ce que les réfugiés soient relâchés pour le moment, mais notre demande n'a pas abouti pour l'instant.
Par deux fois déjà, la plus haute cour de justice du pays a estimé que la loi qui confine les réfugiés dans le désert était contraire à la Constitution. Les juges israéliens condamnent aussi ces méthodes qui consistent à vouloir faire peur aux réfugiés en leur proposant un abri déplorable dans un tel camp. Mais sur le terrain, la situation n'a pas changé, ce qui a amené les militants d'ACRI à tenter de mobiliser l'opinion publique en lançant la campagne des voix de Holot sur le net, où ils publient des témoignages comme celui de Mohamed, originaire du Darfour, que nous livre Rotem Ilan.
Nous sommes noirs, mais pour les Israéliens, nous sommes quasiment invisibles.
Hassan fait partie des rares réfugiés qui ont la force de sortir du camp tous les jours. À chaque entrée et à chaque sortie, il doit faire scanner ses empreintes digitales. Pour Hassan, le camp est une sorte de prison. Devant la porte, d'autres réfugiés vendent des vivres ou des cartes de téléphone. Et Hassan essaie de garder le contact avec sa famille, restée au Darfour.
I lost my mom and more than 16...
J'ai perdu ma mère et 16 membres de ma famille. On m'a menacé, moi aussi. On voulait m'embrigader dans l'armée. J'aurais dû tirer sur les miens. Si on refuse, on est mis en prison et puis on met sa famille en danger. En fuyant, au moins j'ai sauvé ce qu'il me reste de famille.
And at least I managed to save my, you know, like remaining family.
Hassan ne sait pas combien de temps il va devoir encore rester dans ce camp, en plein désert, sans travail, sans occupation, sans aucune perspective. Il a déposé une demande d'asile qui n'a pas été traitée. Le point positif, cela dit, c'est que les autorités israéliennes reconnaissent qu'une expulsion signifierait la prison ou la mort pour la plupart des réfugiés. Alors Israël a passé des accords avec des pays tiers comme le Rwanda ou l'Ouganda et propose aux réfugiés de les y envoyer avec de faux papiers.
Pour peu que tu n'aies pas de chance, tu peux te faire arrêter tout de suite, une fois là-bas. Et alors, personne ne sait ce qui peut arriver. Certains sont partis, mais leur situation ne s'est pas améliorée.
En tout, il y a environ 45 000 Africains qui ont pu passer il y a plusieurs années en Israël, à l'époque où la barrière de sécurité n'avait pas encore été construite dans le Sinaï. Une barrière qui a stoppé l'afflux de réfugiés, d'après les autorités israéliennes. Mais désormais, les personnes désespérées qui tentent leur chance en passant par l'Égypte sont victimes de violences d'une cruauté difficilement imaginable et dans l'indifférence quasi générale. Nous aurons d'ailleurs sans doute l'occasion d'y revenir dans un prochain numéro de Droits et Libertés.
Ma maison est ta maison, chez moi et chez toi. Toi tu as payé l'avion, maintenant je m'occupe de toi. Sois à l'aise, bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi, bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi, bienvenue chez toi, bienvenue chez toi.
Et maintenant, on reste un peu dans la thématique du droit d'asile, mais avec une polémique en Allemagne. Depuis les accords de Dublin, un réfugié non européen doit déposer sa demande d'asile dans le premier État membre de l'Union européenne dans lequel il entre. Les États, qui ne sont en général pas empressés à accueillir les nouveaux arrivants, profitent de cette réglementation pour se renvoyer mutuellement les dossiers et donc les personnes qui les ont déposés. Ce qui pose problème aux pays du pourtour méditerranéen, notamment comme l'Italie ou la Grèce, ou aux pays en bordure d'Union, où les arrivées sont souvent plus massives qu'en Europe du Nord pour des raisons géographiques aisément compréhensible. Voilà la situation sur le papier, mais de fait, l'Allemagne fait partie aussi des destinations les plus prisées. L'Office fédéral des migrations et des réfugiés s'attend à 230 000 nouvelles demandes d'asile en 2015, soit plus que dans les autres États européens. Or, en Allemagne, les églises chrétiennes ont convenu dans la charte de Groningen d'accueillir les nombreux réfugiés qui cherchent un refuge et qui n'ont pas encore de statut légal. Les autorités allemandes ont l'impression qu'en répondant à ces demandes, les églises contournent les procédures administratives officielles de plus en plus dures en matière de droit d'asile. Et la polémique a enflé de nouveau ces derniers temps suite à des déclarations de Thomas de Maizière, le ministre fédéral de l'Intérieur, membre du parti pourtant chrétien démocrate d'Angela Merkel. Ces déclarations faites sur une radio publique.
Nous avons des règles étatiques sur le séjour et les conditions de ce séjour. Et lorsqu'une décision légale a été prise sur un dossier, confirmée par la justice, personne n'a le droit, même pas l'Église, de dire qu'il n'est pas d'accord avec cette décision. Voilà mon point de vue de ministre. Le chrétien que je suis pense qu'on peut faire preuve de miséricorde, mais cela ne concerne que 4, 5, 6, voire 10 cas par an, dans lesquels la pitié peut-être, primer sur le droit. Mais là, nous parlons de centaines de cas. Il s'agit parfois d'un empêchement systématique des expulsions prévues par les accords de Dublin, et cela constitue un abus de l'exercice de l'asile par l'Église.
Ces phrases ont choqué les défenseurs des droits des étrangers et des demandeurs d'asile, notamment dans les rangs chrétiens. D'autant que le ministre a ensuite ajouté une comparaison des pratiques des églises en la matière à la charia, estimant que l'Église n'avait pas à dicter ses lois et devait se soumettre comme les autres aux lois en vigueur dans l'État. Le père Peter Broma accueille justement des réfugiés dans la ville bavaroise de Tutzing, en Bavière.
La nécessité de cet asile accordé par les églises s'explique par les manquements des pouvoirs publics. Le jour où nous ne serons plus tenus d'accueillir ces gens, nous serons contents. Mais tant que ces déficits sont là, nous devons de considérer chaque cas individuellement et en dernier recours, accorder refuge à ces gens pour qu'ils aient une nouvelle chance d'entreprendre des démarches.
L'asile accordé par l'Église en Allemagne est une protection temporaire, accordée aux réfugiés sans statut légal donc, mais c'est une chose rare. Depuis 1996, le groupe de travail fédéral de la rencontre œcuménique Asile à l'Église est spécialiste du domaine. Sur sa page internet, le groupe explique ainsi son action, je cite « Les paroisses accordant la protection aux réfugiés se sentent obligées, de par leur foi chrétienne, de protéger les personnes menacées d'expulsion lorsqu'il est prouvé de façon fondée que le retour vers leur pays d'origine n'est pas sans danger. Elle se place entre les réfugiés menacés d'expulsion et les autorités pour obtenir que leur cas soit de nouveau vérifié et pour empêcher une expulsion. Fin de citation. Ce groupe n'a répertorié que 360 cas d'asile accordés par l'Église dans toute l'Allemagne, dont une centaine d'enfants, dit un Melun jésuite du service des réfugiés à Munich.
Sur 173 000 demandes d'asile, on a moins de 0,3% de réfugiés qui ont, pour ainsi dire, évité l'expulsion. Mais ils ne sont pas évanouis dans la nature. Ils n'ont même pas pris la fuite. Ils ont tout simplement changé d'endroit. Tous les asiles accordés par l'Église sont enregistrés. Avec cette déclaration, M. de Maizière met simplement de l'huile sur le feu.
Précisons tout de même que l'asile accordé par l'Église ne protège pas les réfugiés accueillis d'une arrestation ni de l'expulsion, mais les autorités hésitent à arrêter des personnes aidées par des volontaires dans des paroisses.
Bienvenue chez toi.
C'est la fin de ce magazine. Merci à vous de votre fidélité. Merci aussi à Andrea Grunau et Christian Wagner pour les sons. Vous pouvez télécharger ou réécouter cette émission ou n'importe quel autre numéro qui a déjà été diffusé, tout simplement en vous rendant sur notre site internet dw.de/français. À la rubrique Nos podcasts, vous retrouvez également ce magazine dans la médiathèque de notre site internet. Et puis si vous souhaitez nous écrire pour nous suggérer des idées ou réagir aux émissions, vous pouvez nous envoyer un courriel à français@dw.de sans la CDI à français, comme d'habitude. Salut et à la semaine prochaine.